C'est le groupe audiovisuel qui va faire l'actualité média de la semaine. Canal+ est très attendu. D'abord dans le dossier devenu complexe, le mot est faible, des droits télévisés du foot français. Canal pourrait répondre ce matin à l'appel d'offres lancé par la Ligue de football professionnel, la LFP. Et ensuite dans le dossier des audiences, celles du mois de janvier sont attendues ce matin également. Et l'une des chaînes du groupe bat un record. Quelle chaîne, quel record? C'est ce que va nous dire notre invité dans quelques instants. Bonjour Gérald Brice-Viret.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous
Merci
êtes le directeur
sur Europe 1.
Des antennes et des programmes du groupe Canal+. Avant de parler des audiences, quelques mots sur les droits du football. C'est l'un des sujets les plus forts dans l'actualité des médias. Est-ce que Canal va répondre ce matin à l'appel d'offres lancé par la Ligue de football professionnel?
C'est difficile pour moi de commenter un appel d'offres en cours, vous l'imaginez. Les équipes ont travaillé tout au long du week-end, donc je ne suis pas à même de vous répondre. Je viens de raccrocher avec Maxime Saada, mon président, qui suit avec notre actionnaire et qui est à la manœuvre sur ce dossier important.
Alors que dit-il?
Ben il dit voilà qu'on travaille, qu'on est, c'est vrai, très attaché à la Ligue 1, et je dois dire qu'on a confiance dans la nouvelle présidence, dans la nouvelle gouvernance de la Ligue 1. Ouais. Avec à sa tête Vincent Labrune. Et nous, notre souhait, vous le savez, on est très attaché à diffuser la Ligue 1. On le fait depuis plus de 30 ans. On veut le faire au mieux possible. On a été touché par ce qui s'est passé à Marseille samedi. On a dû annuler notre match.
Ouais. Marseille-Rennes, qui a été annulé à cause d'incidents.
Par cette violence. Donc, c'est vrai que c'est bon, on était choqués, pour tout vous dire. On est du côté, bien sûr, de l'équipe, du président, et même des supporters. On ne peut pas avoir ce type de violence. Donc, on est, j'ai envie de le dire, du côté de la Ligue 1, tout est en suspens, tout va se jouer cette semaine, on a confiance dans les dirigeants de la LFP et en son président, Maxime Saada, dès qu'on en sait plus, reviendra vers vous.
Et la question n'est pas de savoir si vous avez confiance, qu'on a compris que les relations étaient bonnes, c'est d'ailleurs Vincent Labrune, la seule personne que Maxime Saada n'ait pas égratigné dans son interview JD. La question est, est-ce que vous allez vous entendre sur un prix?
C'est l'objectif. De toute façon, l'objectif du prix qui avait été surévalué par nos amis de Mediapro, puisqu'ils ont cassé, comme je l'avais déjà dit sur cette antenne, et ils vont mettre beaucoup de journalistes dehors avec Téléfoot, c'est de trouver le bon prix, et dès qu'on a des nouvelles, on revient vers vous. Nous, on est très attachés à la Ligue 1, on a la Première Ligue, et à la rentrée, on a la Ligue des Champions. Donc, franchement, ça serait idéal de s'entendre. Vous savez qu'on dans notre offre, on a une offre importante de cinéma, de séries, et de sport, donc le rugby, le foot et les sports mécaniques. Sports mécaniques qui cartonnent d'ailleurs aujourd'hui, qui sont une des disciplines favorites de nos abonnés, près d'un million d'abonnés.
Il y a une bataille juridique entre Canal+ et LFP autour des conditions d'attribution des droits télé. On peut comprendre évidemment que vous défendiez vos intérêts, mais est-ce qu'à trop les défendre, le risque ne serait-il pas d'affaiblir, voire de tuer les acteurs du spectacle que vous voulez diffuser, à savoir les clubs professionnels de Ligue 1? Comment essayez-vous de concilier ces deux aspects du dossier? Qu'il faut à la fois vous essayer de donner le moins d'argent possible, ce qui est le but de chaque entreprise, de payer au meilleur prix, et en même temps, c'est vos amis, les clubs de foot, c'est avec eux que vous vivez.
C'est pas donner le moins d'argent possible, c'est donner le
juste prix.
Le juste prix. Et on est là pour aider les clubs, même à se réformer s'il le fallait. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui en France qui ont été frappées face à la Covid, donc je pense que tout le monde a besoin de se réformer. On est là pour les aider, on est là en soutien, et on est là aussi pour défendre notre position. Nous aussi, on est une entreprise française, même si on est présent dans 40 pays dans le monde. On est là aussi pour justifier chaque dépense auprès de notre actionnaire.
Alors justement, on a pu lire que l'attitude de Canal+, pas tout à fait volontaire, c'est un peu un pas de côté parfois dans ce dossier, cette attitude serait liée à deux autres sujets, à savoir la TVA et la chronologie des médias. C'est un peu technique, je vais expliquer. Autrement dit, Canal+ aurait pu accepter de venir en aide au foot français en échange de deux mesures qui lui feraient gagner de l'argent ou moins en perdre. Deux mesures qui relève d'une décision non pas de la Ligue mais de l'État. Il s'agit de la baisse de son taux de TVA qui passerait de 10 à 5,5% et la réduction du délai que doit respecter Canal+ pour diffuser un film sorti au cinéma. On appelle ça la chronologie des médias. Actuellement, c'est entre 6 et 8 mois. Pourquoi ça n'a pas fonctionné?
Les sujets ne sont aucunement liés. Là, vous nous parlez de trois sujets différents. Là, vous m'avez parlé donc de la Ligue 1. On est très attaché à la Ligue 1. On verra cette semaine ce qui se passe.
Je vous en parle parce que j'ai lu, et vous avez lu comme moi, dans plein d'articles d'analystes, que ces sujets étaient liés et que Canal+ faisait pression d'un côté pour obtenir de l'autre.
Aucunement.
Vous récusez cette info.
Sur la TVA, il faut comprendre, même si c'est assez technique, que la loi de finances de décembre 2021 nous, nous fait constater qu'il y a une éventuelle augmentation qui passerait de 10 à 20% la TVA de Canal+. Il faut expliquer que nous étions à notre création à 5,5 en échange de beaucoup d'investissements, et on l'a prouvé dans le cinéma, dans la création originale, dans les documentaires, l'animation, la captation. Après, on est monté il y a moins de 10 ans à 10%, et là, dans le projet de loi, il s'agit de passer à 20%. C'est complètement fou, c'est énorme. On a l'impression qu'on veut nous rajouter des boulets, alors qu'on est le seul acteur français présent à l'international, et on a face à nous des géants. Est-ce qu'il faut que je le rappelle ? Amazon, Netflix, Facebook, et il faut nous aider à nous développer en France et à travers le monde. Et c'est vrai que là, nous avons des discussions serrées, sereines, avec Bercy. Nous avons des solides arguments pour circonscrire ce risque, parce que si on passait à 20%, bah c'est sûr que ça fragiliserait énormément notre modèle.
D'accord, mais en aucun cas, ce débat vient faire éruption dans le débat du football et des droits du foot.
Ce sont des sujets différents que Maxime Saada et toute l'équipe de direction de Canal+ abordent, mais c'est important de les avoir. On les a en même temps avec la Covid, avec des développements internationaux, avec plein de choses.
Alors les audiences, on y vient, celles du mois de janvier vont être publiées ce matin. Vous venez nous en parler un peu avant. Comment se porte le groupe Canal+ ?
Écoutez, les audiences sont plutôt bonnes. Elles sont même excellentes, puisque vous savez que sur Canal+ et sur notre bouquet de chaînes, il y a des audiences linéaires très fortes et des audiences non linéaires extrêmement fortes. Aujourd'hui, un abonné de Canal+ regarde aussi bien en linéaire qu'en non linéaire. Donc c'est la force. On a vraiment ces deux moteurs-là. Et puis, surtout, vraiment une grande réjouissance, et ça c'est un plaisir que nous partageons tous dans le groupe Canal+, c'est l'audience historique de CNews. C'est l'équipe de Serge Nedjar, le patron de CNews, Thomas Bauder et toute l'équipe, les 150 journalistes, qui vont faire leur recours, j'enlève les lunettes, un record historique, même si on est à la radio, ouais. Un record historique, on va être à 1,9% d'audience. Il faut savoir qu'après iTélé, donc il y a 4 ans, on est reparti de zéro. On a remis en route une chaîne qui, pendant plus d'un mois, était en grève et a permis à LCI de nous passer devant. Notre objectif était d'être à 1% sur les CSP+. Vous savez, c'est la catégorie qui
permet... Cadres sociaux professionnels.
Voilà, et on est à 1,9. Donc on félicite vraiment les équipes de CNews qui a su trouver son créneau. Il faut savoir qu'il y a 4 chaînes d'information en France. Il y a BFM qui fait bien son travail, LCI, France Info, il y a nous. Et donc on a trouver notre différence, donc on l'avait déjà il y a un an, puisqu'on était leader le matin avec La Matinale, Romain Desarbres, avec Pascal Pro et avec aussi Morandini, et là on a profité évidemment du premier confinement où les gens ont découvert CNews, mais surtout ce qu'on a réussi, et ça c'est fort, pour une chaîne d'info, c'est de nous installer le soir, dès 18h, avec Punchline, Laurence Ferrari, Face à l'info avec Christine Kelly, et lors des Pro 2, 750 000 téléspectateurs, on touche le million tous les soirs à 19h, il y a le 19h, il y a la grosse artillerie en face de nous, il y a le journal 19h45, et surtout à 20h, ce qui était un rendez-vous qui était quasiment fini pour les chaînes d'info. Là, on a prouvé qu'on pouvait faire près de 700 000 téléspectateurs avec Pascal Pro.
Voilà, et vous n'avez pas cité Éric Zemmour, on en parle juste après avec vous, Gérald Brézuret.
Et pas Jean-Pierre Elkabbach aussi,
Culture
dont j'aimerais
Média
vous parler. Vous
on parlera d'Elkabbach aussi.
Sur cette radio.
Culture Média continue, à tout de suite. En compagnie de Gérald Brézuret, directeur des antennes et des programmes du groupe Canal+, on parle de CNews, un peu spoiler les annonces de ce matin. CNews, ce sont les audiences du mois de janvier, dans lesquelles CNews marque son record historique, 1,9% de part d'audience. Record historique parce que même de son temps, le record historique de iTélé était à 1,6%. Vous avez cité beaucoup de noms, vous n'avez pas cité Éric Zemmour. J'en parle parce que CNews, qui est passé deuxième chaîne d'info derrière BFM TV, est même première pendant 2 heures chaque jour, entre 19h et 21h, avec les émissions d'Éric Zemmour et Christine Kelly et de Pascal Pro. Face à l'info avec Zemmour et Kelly, plus 266% d'audience par rapport à un an à la même époque. Et l'heure des pros 2, donc de Pascal Pro, comme son nom l'indique, plus 345% sur un an. Comment, c'est quasiment quadruplé, comment expliquez-vous leur succès ?
C'est un pari du directeur général de la chaîne, Serge Nedjar, qui avait commencé avec Pascal Pro au tout démarrage de CNews à faire une émission, comme il l'avait dit, décryptage d'opinion, le matin on invite des journalistes, et vous savez, l'information elle arrive de partout, on arrive le soir, on a déjà toute l'information qui va être dans le journal de 20h.
Ça existait déjà.
Oui, mais il y a
les grandes gueules, c'est un peu le principe, et plein d'autres émissions. Qu'est-ce que cette séquence avait de plus que les autres ?
Je pense qu'on a trouvé notre ton avec les présentateurs et le tour de table. Et Éric Zemmour, vous savez, il est né sur iTélé et on a eu envie qu'il revienne dans cette émission. Et il est autour de Marc Menant et d'autres personnalités, Éric Derrida-Matten et un journaliste écho. Et ils font toute l'actualité, ils prennent des thèmes, ils les décryptent, ils font même un thème historique. Et c'est vrai qu'on atteint le million de téléspectateurs. Et c'était un horaire qui était quasiment, pas mort, mais inaccessible en télévision. Et aujourd'hui, on est leader, mais à des chiffres, 750 000 en moyenne, vous l'avez dit, ouais. Et jusqu'à 1 million. Et sur Pascal Pro, juste après, alors là, le 20h, c'était le pire sur une chaîne d'info. On se dit, mais il y a le 20h de TF1, il y a le 20h de France 2, il y a de l'information partout, il y a même de l'information sur Canal+.
Qu'est-ce qu'on va faire ? Et puis, il y a Nana Quotidien et Anne-Elisabeth Lemoine, grosse concurrence.
Mais qui sont heureusement sur des publics différents, parce que c'est vrai que Cyril est beaucoup plus jeune dans le divertissement. D'ailleurs, il est au-delà du million, comme je l'avais dit ici, et donc on a promesse tenue. Et l'heure des pros a trouvé, on est passé de 80 000 téléspectateurs à 150, et aujourd'hui, on est arrivé à 623 000 en moyenne sur Pascal Pro, donc c'est une véritable réussite dans le décryptage, dans les thèmes choisis, dans les invités. Je pense que ça, c'est une véritable force pour CNews.
Et puis, vous parliez tout à l'heure de créneau. C'est quoi ce créneau ? Est-ce que vous pourriez le nommer ?
Créneau, c'est un créneau de paroles libérées. C'est d'ajouter à la démocratie des gens qui n'avaient pas nécessairement accès aux médias tous les jours. Et ce qui est intéressant, moi je pense que d'abord nos concitoyens...
Ils n'avaient pas accès aux médias, Pascal Pro, Éric Zemmour ?
Non, je pense que c'est comment on a composé le bouquet de journalistes qui viennent parler sur nos antennes. Vous savez que toutes les femmes et hommes politiques sont invités sur notre antenne. On a une obligation vis-à-vis du CSA, mais c'est la manière de décrypter les choses. Je prends un exemple, c'était hier soir sur CNews, dans l'émission de Jean-Pierre Elkabbach, Repère. Et je vous invite à la regarder, parce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a le projet de loi qui vise à lutter contre le séparatisme. Et il a invité le président du Rassemblement des musulmans de France, Anouar Pibesh, qui a expliqué, décortiqué la loi avec lui pendant 15 minutes. Et il est revenu aussi sur la charte des principes pour l'islam de France. On a tout compris. La différence entre l'islam et l'islamisme, c'était... Ouais. Exceptionnel. On était dans l'actualité et on a pris le temps de comprendre.
Ça, c'était hier. Mais c'est pas ce qu'on fait chez Pascal Pro ou avec Zemmour.
À chaque fois, on prend un thème et on le décortique et on explique. Et après, je pense que nos concitoyens sont assez mûrs pour avoir leur propre avis. Et c'est la force de CNews qui complète l'offre de BFM, de LCI et de BFM. Je crois qu'on on apporte beaucoup à la démocratie et ça, je voulais le dire ce matin.
Puisque justement, vous parlez de vos concurrents, de nombreux observateurs des médias et même certains des concurrents de CNews disent que la chaîne, votre chaîne CNews, a choisi un positionnement à droite. Écoutez ce que disait il y a 3 semaines ici même l'un des présentateurs de LCI, Pascal Perry.
L'offre de CNews, oui, c'est une offre qui est orientée, qui correspond à un courant de pensée qui est très, très identifié.
Comment vous le qualifieriez, ce courant de pensée ?
Il y a du patriotisme, il y a du nationalisme, c'est plutôt une chaîne qui a une offre de droite, mais une fois encore, ça la regarde.
CNews est une chaîne de droite, et encore une fois, ça vous regarde. Mais est-ce que CNews est une chaîne de droite pour répondre à l'affirmation de Pascal Perry ?
Ni de droite, ni de gauche, c'est un positionnement éditorial. Tout le monde est le bienvenu sur l'antenne de CNews. On a même eu pendant une heure l'ancien président de la République socialiste François Hollande. On a eu tous les gens de droite et de gauche viennent sur ce plateau. Après, il y a des thèmes, et on est derrière aucun parti, on n'a aucun dessein politique. Dites-le à nos 150 journalistes, Laurence Ferrari, Romain Desarbes, Sonia Mabrouk qui est sur cette antenne. On est vraiment une chaîne de toutes les opinions.
Oui, mais ça c'est une obligation du CSA, vous savez très bien.
Et après, on a choisi positionnement éditorial et marketing pour nous différencier des autres chaînes et on a réussi. Et parce qu'on a réussi, on dit oui, vous êtes une chaîne de droite. Excusez-moi.
C'est le cœur du sujet. Mais quel est ce positionnement éditorial et marketing que je ne vous reproche pas, mais que je trouve très intéressant que vous nommiez ?
Alors, c'était de libérer la parole et de prendre des thèmes qui n'étaient pas abordés suffisamment sur les autres chaînes de télévision.
Quel thème, par exemple ?
Tous les thèmes du quotidien. Aujourd'hui, par exemple, il y a une fronde des restaurateurs qui ont envie d'ouvrir et des restaurateurs qui vont ouvrir aujourd'hui. Ben, on s'intéresse à la vie des restaurateurs.
Ben, on les a entendus partout sur toutes les chaînes, y compris dans les 20 heures.
Nous, il y a une manière de le faire qui est différente sur CNews. La preuve, c'est que les téléspectateurs sont là et que ça cartonne. Donc voilà, c'est la manière de décrypter, je pense aussi que la conviction
convivialité des présentatrices, des présentateurs, il y a une sorte de proximité avec nos téléspectateurs qui n'existait pas auparavant et qui n'existe pas sur les autres chaînes, plus en radio d'ailleurs qu'en télé. C'est 7 millions de Français qui viennent tous les jours s'informer sur CNews. Voilà, on n'est ni de droite ni de gauche, on est une chaîne d'information avec du décryptage, du débat et on l'assume.
Mais quand même, vous ne pouvez pas nier que certaines opinions sont mieux exposées que d'autres, celle d'Éric Zemmour par exemple. Est-ce que vous pourriez proposer ce créneau horaire à un éditorialiste de gauche ou d'extrême gauche?
Mais écoutez, Laurent Geoffrin est juste avant dans l'émission de Punchline. Moi, je considère pas que Éric Zemmour est dans la position des extrêmes. En tout cas, il est dans le Figaro, il est sur M6 dans Paris Première.
Non, en tout cas, il est pas à gauche. Ma question était, est-ce que vous pourriez confier ce même genre de créneau à quelqu'un de gauche?
On pourrait avoir des intervenants de gauche dans cette émission ou dans d'autres émissions. On en a d'ailleurs regardé l'antenne de CNews. Vous en avez énormément. Et je vous assure que c'est vraiment... c'est déstabilisant d'entendre ça de la part des confrères et des concurrents. Quand 150 journalistes font leur métier, réussissent, font une chaîne d'information qui fait des bons résultats, et on essaye... Non, on défend personne. On est simplement un élément supplémentaire dans la démocratie où il y a 4 chaînes d'information. Et bravo encore aux équipes de CNews.
Un dernier mot encore sur Éric Zemmour. Le vendredi soir, le format de son émission change un peu. Il est seul face à un invité. C'est un débat face à face qui n'a pas toujours lieu depuis le début de la saison. Et aucune femme à notre connaissance n'a accepté de venir.
Alors, il y a eu des femmes, je vous donnerai le nom des femmes, il y a eu des femmes, vous ne vous inquiétez pas, il y a eu des femmes, c'est la volonté de Christine Kelly et de...
Pourquoi si peu ?
De Serge Nedjar. Bah, écoutez, on veut inviter, donc je fais un appel sur cette antenne, si vous voulez venir dans l'émission Face à l'info, face à Éric Zemmour,
attendez.
N'hésitez pas.
C'est quoi le problème ? C'est la première fois que je vois le patron d'une antenne faire un appel pour que des gens viennent dans leur émission, alors que normalement les gens se battent pour passer à l'antenne, à l'image et au micro.
Mais puisque vous faites, on a beaucoup d'hommes, on aura un débat cette semaine, on vous donnera la personnalité qui est un membre du gouvernement qui viendra débattre. On a eu un excellent débat avec Jean-Pierre Chevènement. On a eu aussi Camandelis qui est venu. Et puis on a, je voulais simplement pour une seconde dire qu'on avait Franck Ferrand qui nous avait rejoint, parce qu'il est très connu sur cette antenne, dans une émission d'histoire avec Christine Kelly et Marc Menant, ça s'appelle La belle histoire de France. Pour savoir où on est, il faut savoir d'où on vient. Et c'est tous les dimanches. Et donc c'est pour montrer la différence par rapport aux autres chaînes d'information.
On l'a annoncé, cette arrivée de Franck Ferrand. Vous avez des bons rapports avec M6 ?
Nous, globalement, on a des bons rapports avec tout le monde, sauf évidemment Manon, mais avec M6, oui, des bons rapports.
Sauf évidemment avec qui ?
Ils font... Non, mais je suis pas là pour polémiquer, mais avec M6, on a des très bons rapports avec M6. Nicolas Taverneau, et j'ai envie de dire, quelqu'un connaît bien le paysage audiovisuel, il a depuis longtemps, et il décrypte bien, il gère bien sa chaîne.
Je vous en parle parce qu'on a appris il y a 3 jours que la maison mère de Canal+, Vivendi, faisait partie des groupes approchés par Bertelsmann pour racheter M6 et RTL. Est-ce que vous confirmez cette information ?
Je peux rien dire parce que je ne suis pas au courant. À mon niveau, je ne gère pas cette affaire-là. En tout cas, le groupe M6 est un très beau groupe en France. C'est un groupe qui appartient à des Allemands. C'est un beau groupe de radio et de télévision. Mais je ne peux pas confirmer ni infirmer cette information. Je ne suis pas du tout au courant de ce sujet.
Et petit rectificatif, ce n'est pas CNews qui est en tête le matin, c'est BFM.
Oui, c'est BFM le matin et nous sommes leaders de partir de 18h jusqu'à 21h et nous étions, comme je vous l'ai dit, déjà deuxième l'an dernier et nous sommes passés leaders le soir.
Merci beaucoup Gérald Brice-Viret, merci d'avoir été avec nous, directeur des antennes et des programmes de CNews. Dans un instant, tiens, une animatrice d'M6.